Donc, on continue notre étude sur le mystère de l'épouse. On avait regardé le mystère de la foi, le mystère de l'Évangile, le mystère des Juifs et gentils dans un corps. Puis maintenant, on est rendu au mystère de l'épouse qu'on a commencé la semaine passée. Puis on va continuer cette semaine. Avant de commencer, peut-être on va demander au Seigneur de nous aider. Seigneur notre Dieu, on se tourne encore ce soir vers ta parole. On te remercie pour tous ceux qui ont eu le désir de se connecter avec nous pour qu'on puisse ensemble regarder à ta parole, Seigneur, des choses que tu nous as révélées. Oui, Seigneur, comme on voit des mystères, ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses, quand tu nous les expliques, qu'on peut les comprendre. Puis c'est pour que tu nous montres ta relation avec nous, Seigneur, comment tu désires une relation intime avec nous. Et on te remercie parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu découvrir de nous-mêmes. Il a fallu que toi, Seigneur, tu nous le révèles dans ta parole et par ton esprit. On te remercie pour toutes ces choses et on te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va aller dans Éphésiens au chapitre 5 pour nos versets. Pour toujours nos versets qu'on regarde qui nous dit que c'est un mystère. Et on a regardé d'abord ce mystère-là. C'est la relation de l'épouse, parce que la relation de mariage dans la parole de Dieu nous parle de, ça nous décrit la relation que Christ a avec son épouse, qui est l'Église. Donc, c'est une relation qui est vraiment importante. On avait vu que la Bible commence avec un mariage, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant que le péché entre dans le monde. Et la Bible se termine avec un mariage. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le festin des noces de l'agneau, Seigneur Jésus-Christ qui est uni à son épouse, qu'il a rachetée lui-même. C'est pour ça que cette relation-là est précieuse aux yeux de Dieu. Et toute déviation dans cette relation-là, ça donne un opprobre sur la relation de Christ avec son Église. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Hébreux 13, verset 14, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure, parce que Dieu va punir, il va juger les débauchés puis les adultères. On avait vu la semaine passée dans les rôles distincts que Dieu a donnés, puis ça, c'est quelque chose qui est le monde aujourd'hui. Ils ne veulent pas se soumettre aux rôles distincts que Dieu a donnés à l'homme et la femme. On sait toute la situation là, de confusion de genre, puis c'est une grande confusion, mais Dieu a créé l'homme. Il a créé mâle et femelle. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est sa création, c'est son idée. Puis, on est mieux de se soumettre à son idée à lui que de la contester. Et donc, on avait vu les rôles distincts. Donc, on va lire encore une fois dans Éphésiens 5, 22 à 33, parce que c'est là qu'on voit que c'est un mystère. Paul, en parlant de la relation mari et femme, il dit: Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, il montre ici la relation, c'est représentant, la relation dans le mariage représente, la femme représente l'Église. Et l'homme représente le Christ, l'époux. Donc, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, on a ici le mot mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, après avoir vu les différents rôles, le rôle de la femme et le rôle de l'homme, eh bien, des rôles distincts qui ont été donnés par le Seigneur. Ce n'est pas nous autres qui décident ça, c'est le Seigneur qui a décidé parce que l'importance de cette distinction-là dans les rôles, parce qu'on est représentant, on représente Christ et son Église dans sa relation, et c'est important qu'on puisse comprendre ça. On avait vu, après avoir vu ça, les rôles distincts, on a parlé de trois relations de mariage qu'on voit dans la Genèse. Et ces trois relations de mariage-là représentent la relation, c'est la Trinité. Dieu est un Dieu trinitaire. Des gens qui ne croient pas à la Trinité, mais la Trinité, on la voit à l'œuvre fonctionnant, mais la Trinité agit toujours en pleine harmonie dans le salut de l'homme, dans le plan de rédemption. Puis c'est pour ça que la parole de Dieu, comme on a dit, les types dans l'Ancien Testament nous illustrent la doctrine. On avait dit que le Nouveau Testament nous énonce la doctrine, mais l'Ancien Testament nous illustre la doctrine. Donc c'est important de ne pas mêler les rôles. On ne peut pas énoncer la doctrine avec les types. Il faut vraiment avoir la doctrine qui est énoncée dans le Nouveau Testament. Puis ensuite, on peut voir l'illustration dans les types. C'est ça, c'est important. Donc, les trois relations de mariage qu'on avait parlé, qu'on avait commencé à regarder la première dans la Genèse, c'est au chapitre 2 de Genèse, c'était Adam et Ève. Puis on avait dit que cette relation-là, parce que Adam y était créé, mais Ève n'était pas encore là. Elle avait été créée en même temps qu'Adam, mais elle était en Adam. Et il a fallu que Dieu fasse tomber Adam dans un profond sommeil, puis il a sorti Ève de son côté percé. Donc, c'est ça que, ça c'est, des fois, il y a des gens qui cherchent à se marier, eh bien, le Seigneur peut pourvoir, parce qu'il a pourvu pour Adam quand il n'y en avait pas, mais il a pourvu une femme pour lui. Puis ça représente la part du Père de pourvoir une épouse pour son fils. Puis on sait comment est-ce que c'est venu, ben, c'est par le moyen de la rédemption. Dieu avait créé l'homme, l'homme a tombé dans le péché, puis par la rédemption, maintenant en rachetant, il pourvoit une épouse pour son fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est une belle relation que la relation de mariage. Ensuite, on va voir dans Genèse 24, c'est Isaac et Rebecca. Donc les premiers, c'est Adam et Ève dans le chapitre 2 de la Genèse. Dans le chapitre 24, c'est Isaac et Rebecca. Puis c'est un très beau chapitre, on va le regarder ce soir ensemble. C'est un long chapitre, mais tellement beau parce que ça décrit, c'est le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père pour aller chercher l'épouse pour la présenter à son fils. Donc on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans cette relation-là qui a été envoyée, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils. Qui allait hériter de toutes choses. Puis dans la Genèse, au chapitre 41 et au verset 45, entre autres, on voit que c'est Joseph et Asnath. Joseph qui, lui, c'est la part du fils qui prend possession de son épouse durant qu'il est rejeté de ses frères et qui s'unit à elle avant de se réconcilier avec ses frères. Donc, c'est quand il est élevé sur le trône par Pharaon. Pharaon lui donne une épouse et il s'unit à elle. Et ensuite, il va se réconcilier avec ses frères. Puis c'est comme on voit ça c'est comme dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus, avant de se réconcilier avec ses frères, eh bien, il va s'unir à son épouse. C'est pour ça qu'on croit, selon la parole de Dieu, que l'Église est enlevée avant la tribulation. Parce que c'est durant la tribulation, à la fin, que le Seigneur va réconcilier avec ses frères qui sont le peuple juif, mais il va être uni avec son épouse avant cela. Donc, on avait vu que dans Genèse 2, c'était la part du Père pour pouvoir une épouse pour son fils. Mais maintenant, on va finir de regarder cette relation-là. On n'avait pas fini. Donc, si on est dans la Genèse au chapitre 2, on va retourner là dans Genèse chapitre 2, puis au verset 18, on va lire ce passage-là ensemble. Il dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux, et il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, dans toute la création, tous les animaux, l'homme était à part, était distinct des animaux, puis même c'est une chose aujourd'hui qui est contestée aussi. On nous dit que l'homme est un animal. L'homme n'est pas un animal. L'homme est élevé au-dessus du règne animal. Il peut entrer en communion, il peut entrer en contact avec Dieu. Il était créé pour être en contact avec Dieu. Donc après, quand il a tout vu les animaux, des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Imaginez quand Dieu a présenté cette femme-là à l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Quand il dit on l'appellera femme, là, bien c'est que dans l'original, l'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Donc on ajoute au mot pour. Puis en anglais ça fonctionne, hein, on dit man, woman. En français ça ne marche pas, il y a certaines traductions. La traduction Martin, entre autres, qui dit on l'appellera homesse, mais c'est pas vraiment un mot. Souvent, dans la marge, on va nous donner ce détail-là qui on perd dans la traduction, mais c'est ça. Donc, elle est au même niveau que l'homme ici dans sa relation. Puis, maintenant, elle est sortie de l'homme, donc il sera plus complet sans elle, parce que les deux deviennent une seule chair. Il ne sera plus complet sans elle. Puis, en pensant à ça, là, quand on pense au Seigneur Jésus-Christ dans sa relation qu'il a établie avec son épouse, eh bien maintenant, on est son corps. Lui, il est la tête, mais on est son corps. Donc, il est plus complet sans nous. C'est une relation que lui-même, il s'est placé dans cette relation-là avec nous. C'est une relation vraiment de privilège qu'on a. Donc, c'est ça qui, ça amène l'engagement envers elle. Puis ça, encore aujourd'hui, c'est des choses qui sont contestées. On ne s'engage plus maintenant. On commence à rester ensemble, puis il n'y a pas d'engagement. Mais on voit qu'il dit au verset 24, il dit, c'est pourquoi. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc c'est important. Ça demande un engagement. Ça, c'est Dieu qui a institué le mariage avec un engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est un engagement qui est très sérieux. C'est une relation maintenant qui va être au-dessus de toute autre relation. La relation de mariage est au-dessus de toute autre. Quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, si on ne traite pas cette relation-là comme étant une relation qui supersède les autres relations, bien c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Et puis ceux qui n'obéissent pas à ça, ils voient des problèmes dans leur mariage. Donc, tout quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, on voit que c'est une relation vraiment unique, c'est une relation vraiment intime. Mais on voit dans le verset 25 qu'il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, il n'y a rien de cachette entre les deux. C'est vraiment devenu il n'y a pas d'autre relation comme celle-là là, qu'on va avoir avec quelqu'un d'autre. Peut-être un ami, quelqu'un qui des parents, mais avec l'homme et la femme, il y a une relation qui surpasse toutes les autres relations. Puis ça nous parle de la relation du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Vous savez, on est tellement intime avec le Seigneur Jésus. C'est tellement merveilleux. Vous savez, des fois, le langage est difficile, on a de la difficulté à communiquer, mais avec lui, on n'a pas de difficulté parce que tout est nu et découvert aux yeux de celui avec qui nous avons affaire. Donc, on est devant le Seigneur Jésus, on ne peut rien lui cacher, on ne veut rien lui cacher, il nous connaît même plus intimement que nous-mêmes. Mais de penser à cette relation-là dans cette intimité profonde-là, là, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment un privilège extraordinaire. On a que l'origine ici, c'est l'origine du mot Adam, qu'on voit ici dans ce passage-là, là, quand il, dans le second, il a traduit l'homme, mais c'est vraiment dans, comme dans le verset 19, là, il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme, mais c'est vers Adam. Le mot là, dans l'original, c'est Adam. Puis ce mot-là, Adam, là, ben, c'est le nom du premier homme. Mais ça a une signification. Ça vient d'un mot qui veut dire vermeil. On voit ça des fois, le mot vermeil, là, dans le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé, il est vermeil. Ben, ça veut dire rouge ou rosé, un teint rosé. C'est ça que ça veut dire. Puis David aussi, quand il s'est présenté devant Goliath, bien, il dit que il était vermeil. Donc, il était devant Goliath. Il avait demandé, donnez-moi un homme. Mais c'est vraiment ce qui représente vraiment l'humanité de participer au sang et à la chair. Donc, c'est de montrer le sang dans le visage. Vous savez, quand on rougit, quand on est gêné ou confus ou on rougit, c'est le sang qui monte au visage. Ça démontre vraiment qu'on fait partie de l'humanité, là. On est homme, c'est ça que ça veut dire, rouge ou vermeil. Mais quelque chose de merveilleux, c'est que on sait que quand l'homme a regardé tous les animaux, puis il a donné des noms, mais il n'y avait pas d'être semblable à lui. Donc, il pouvait pas, les animaux ne pouvaient pas être en relation avec lui comme lui pouvait être en relation avec Dieu. Mais la femme, elle entre dans cette relation-là qu'il avait avec Dieu. Il entre dans cette relation-là au même niveau que l'homme, une aide semblable à lui. Donc, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. On entre dans une unité avec lui qui est tellement grande, tellement merveilleuse. Vous savez, dans 1 Corinthiens 11, verset 11, il dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Et vous, l'égalité, quand Paul il donne dans 1 Corinthiens 11, il donne des distinctions dans les rôles, mais il dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Ça veut dire qu'on est au même niveau. Ce n'est pas une question d'infériorité ou de supériorité, mais c'est qu'on est vraiment dans le Seigneur, puis par le baptême du Saint-Esprit, il dit il n'y a pas ni homme ni femme. Donc, en dehors des rôles distincts qui nous sont donnés, on est dans la même relation. La femme a la même relation que l'homme avec Dieu. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment s'en faire avec ça. L'homme n'est pas dans sa relation avec Dieu. L'homme n'est pas au-dessus de la femme. On est au même niveau dans notre relation avec Dieu, dans des rôles distincts, mais faut pas mélanger les deux. Mais ça nous parle de la relation qu'on a aussi avec le Seigneur Jésus. Puis la relation que le Seigneur Jésus a avec son Père. Ça, c'est quasiment, là, si on ne voyait pas ça écrit dans la parole de Dieu, là, on ne s'avancerait jamais pour dire des choses comme ça. Mais dans Jean 17, au verset 21-23, le Seigneur Jésus exprime cette relation-là qu'on a maintenant avec lui. Puis si le Seigneur ne l'avait pas dit, là, ça serait difficile de croire à cela. Mais le Seigneur dit dans Jean 17, au verset 21, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voyez-vous, il compare la relation qu'on a ensemble avec lui, il la compare à la relation que lui a avec son Père. Comme toi, tu es en moi, et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et vous, c'est tellement grand cette relation-là là, qu'on a avec le Père, avec le Seigneur Jésus-Christ. On est un comme eux, ils sont un, on est entrés dans cette unité-là. Ce n'est pas pour rien que Jean, dans son premier épître, il dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Jean était tellement émerveillé par cette intimité-là qu'on a avec le Père et avec son Fils. La même communion qu'il y a entre le Père et le Fils, on est entré dans cette communion-là avec le Seigneur Jésus. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux là, quand on s'arrête à réfléchir à ces choses-là. Quel privilège! Parce que vous savez, des fois, en prêchant l'Évangile à des gens qui suivent la tour de garde, ils disaient, ah oui, c'est ça, ils disent, vous autres, vous allez aller au ciel. L'homme était créé pour rester sur la terre, puis parce qu'il a péché, il va être au ciel. N'est-ce pas que c'est merveilleux? C'est vrai, c'est tellement grand que mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. On peut y croire parce que c'est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, qui nous dit, qui nous révèle ces choses-là. Quelle relation qu'on a. Maintenant, on va regarder dans Genèse 24. On n'ira pas tout le chapitre parce que il y a vraiment, c'est un long chapitre. Puis c'est merveilleux qu'il soit long parce qu'il y a tellement de belles choses dans ce chapitre-là. C'est un beau chapitre à méditer. Il y a 67 versets. Puis il y a tellement des choses qui sont révélées dans la beauté de la relation que l'épouse a avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment, vraiment grand. Mais quand on va lire les premiers versets dans le chapitre 24 de Genèse, il dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc, c'est un homme riche. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Puis là, le serviteur a mis sa main sous la cuisse d'Abraham, puis il a fait ce serment-là. Donc ici, on voit cette relation-là avec Isaac et Rebecca. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père pour aller rechercher une épouse pour son fils qui est l'objet de l'affection du Père. Hein, c'est sûr que le fils, c'est l'objet de l'affection du Père. Mais le fils, c'est lui qui va posséder toute chose, parce que le fils est l'héritier. Hein, tout ce que le Père a, tout ce que Abraham avait comme richesse, eh bien, ça allait être transmis à son fils Isaac. Puis, on sait que le Père aime le fils. Hein, dans Jean 3, 35, le Père aime le fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, on voit au verset 2 que le serviteur n'est pas nommé. On ne connaît pas le nom du serviteur. C'est le plus ancien de sa maison, mais son nom ne nous est pas donné. C'est sûr que plusieurs pensent que c'est Éliezer, mais en tout cas, c'est peut-être. Mais il n'est pas nommé. Puis si l'Écriture ne nous le nomme pas, bien, il y a un but là-dedans. Vous savez, des fois, c'est comme Melchisédek. Melchisédek, il y a tellement de détails. Les plus grands détails concernant Melchisédek, c'est ceux qui ne sont pas mentionnés. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est des choses qui ne sont pas mentionnées. Puis le Nouveau Testament nous dit que dans les choses qui ne sont pas mentionnées, c'est une révélation. Puis ça aussi, le Saint-Esprit. Ici, le serviteur qui n'est pas nommé, mais représente le Saint-Esprit. Puis parce que dans Jean 16, 13, le Seigneur Jésus avait dit, il ne parlera pas de lui-même. Donc, le Saint-Esprit a un rôle, lui aussi, de soumission. Il a un rôle effacé, lui aussi. C'est pour ça que le rôle de la femme, ce n'est pas un mauvais rôle, c'est un beau rôle. Comme le Saint-Esprit, lui, c'est un rôle effacé pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est envoyé, il ne mettra pas l'emphase sur lui-même, il est allé pour décrire ou présenter d'avance l'époux à l'épouse, pour qu'elle puisse faire son choix de le suivre, de le servir. Parce que un esprit qu'on entend souvent, des fois dans certains milieux, nous parle d'un esprit qui s'exalte lui-même, ce n'est pas l'esprit de Dieu. parce que l'Esprit de Dieu est en parfaite harmonie dans la Trinité. Puis son rôle, lui, c'est d'aller gagner l'épouse pour l'amener à l'époux, qui est le fils de son maître, de son Seigneur. On va voir qu'à la fin, il appelle le fils son Seigneur aussi, comme il appelle Abraham, le père, son Seigneur. Donc, on voit dans Jean, on va aller dans Jean 15 au verset 26. Gardez votre doigt dans Genèse 24. Mais si on va dans Jean 15 au verset 26, le Seigneur Jésus qui dit par rapport à l'Esprit, il nous dit ici, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, on voit que ici, c'est Abraham qui envoie son esprit pour Isaac, pour aller chercher une épouse pour Isaac. Puis là, il dit, l'Esprit que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. C'est ce que le serviteur d'Abraham, ici, il s'en va pour aller rendre témoignage du fils de son Seigneur, qui est Isaac, dans cette situation-là. Dans le chapitre 14, au verset 26 de Jean, le Seigneur dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, on voit qu'il est envoyé du Père. C'est comme dans notre récit ici, c'est Abraham qui envoie son serviteur avec une mission. Puis il vient pour attirer l'épouse. Comment il va attirer l'épouse? Mais c'est en faisant connaître l'époux. C'est en faisant connaître le fils de son Seigneur avec toutes ses richesses. Verset 3-4 dans Genèse 24, il dit, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, il va attirer l'épouse en faisant connaître l'époux. Mais l'épouse devra faire son choix. Il y a des gens qui nous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de choix, mais ici, on sait que les types ne peuvent pas énoncer la doctrine, mais le Seigneur, on voit partout dans le Nouveau Testament que le Seigneur fait un appel, mais il faut répondre à cet appel. Puis on a le choix, il y a des gens qui choisissent de ne pas répondre à l'appel, puis il y a des gens qui, ceux qui sont pas attirés par le Seigneur Jésus, ne répondent pas à cet appel-là. Voyez-vous, dans les versets 5 à 9 qu'on a lu, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Donc, la femme, ici, l'épouse doit choisir de répondre. C'est un appel. Il vient pour présenter l'époux et il vient lui montrer les beautés, la richesse de l'époux, et elle doit choisir. Puis, on le voit même au verset 57 et 58. Ici, quand ils l'ont consulté, et il dit 57, alors ils répondirent, appelons, peut-être au verset 56, il leur répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon serviteur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Vous savez, c'est la même chose dans la relation de mariage. Eh bien, il faut être d'accord. Il faut, l'homme propose, puis la femme répond à la proposition de l'homme. On sait que les rôles dans le monde dans lequel on vit sont chambardés, mais dans les rôles qui sont donnés par Dieu, c'est l'homme qui propose, qui fait la demande à l'épouse si elle veut l'épouser. Puis elle répond, elle a le choix de dire oui ou non. C'est pour ça que dans une relation de mariage, c'est important, la femme a, dans un sens, le dernier mot, parce que c'est elle qui va dire oui ou non. Mais quand elle dit oui, elle est mieux de dire oui à quelqu'un qui va bien être, parce qu'après ça, elle va se soumettre à cet homme-là. Donc, si elle va se soumettre à cet homme-là, elle est mieux de choisir quelqu'un de bien, quelqu'un qui va penser à elle, qui va prendre soin d'elle, qui va pouvoir se soumettre en toute confiance, sachant que lui, il va se livrer, comme le Seigneur Jésus s'est livré pour son épouse, mais elle est mieux de choisir un homme comme ça, qui va se livrer, qui va se donner, qui va penser à elle avant de penser à lui. On voit dans les versets 10 à 11 il dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc ici, il part avec les chameaux. Puis, que représentent les chameaux dans cette histoire? Toutes ces choses-là, ça a toute une signification. Les chameaux, dans cette histoire ici, ils représentent la foi. La foi, parce que c'est la foi qui va, c'est les chameaux qui vont transporter cette épouse-là à travers le désert pour l'emmener vers l'époux. Puis, à la fin, quand elle voit l'époux, au verset 64, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Donc, on remarque que durant la traversée du désert, le soir, elle devait descendre de son chameau, mais l'Écriture ne nous dit pas. Mais elle nous dit spécifiquement, et moi, je me suis demandé, je me suis dit, si l'Écriture dit qu'elle est descendue de son chameau quand elle a vu Isaac, bien, il y a une signification, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais que ça avait une signification parce qu'il n'y a pas de mot par hasard dans l'Écriture. Tous les mots ont une signification. C'est ça qui fait que l'Écriture est tellement riche. Mais quand j'ai su que les chameaux sont un type de la foi, bien, quand elle a vu Isaac, elle n'avait plus besoin de la foi. Et non, on dit quand la foi va donner place à la vue, elle n'avait plus besoin des chameaux, elle était arrivée, elle était dans la présence de l'époux, puis elle était bien contente. Donc, mais l'épouse devra croire le témoignage qui va être rendu par rapport au fils, le témoignage qui est rendu par le serviteur, qui va parler, parce qu'elle ne l'a pas vu. Elle ne le connaît pas. Mais le serviteur va lui parler du Fils. Quand le Seigneur dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le révélera. Bien, c'est ça que le serviteur ici, il révèle des choses par rapport à le Fils de son maître, de son Seigneur, à un tel point que maintenant, il faut que cette épouse-là croie le serviteur. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on choisit d'être unis au Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit qu'ici, les chameaux, comme il est dit ici, ils firent reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir ou au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc, c'est important. L'Esprit va rendre un témoignage. Dans 1 Jean 5, 6, il dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc, c'est lui qui rend témoignage, comme ici le serviteur d'Abraham rendait témoignage à l'épouse pour qu'elle puisse choisir l'époux. 1 Jean 5, 9 à 13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, voyez-vous, il y a un témoignage qui est donné, puis il va s'installer, ici, il va s'installer en dehors de la ville, près d'un puits. On sait que l'eau nous parle de l'Esprit, puis elle nous parle aussi de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est représentée par l'eau, et les chameaux, ben, c'est pour ça qu'on lit, il va falloir que l'épouse abreuve les chameaux, dans le verset 19. Il est dit, voici, attendez un petit peu, je suis dans le chapitre 25, dans le verset 19, il est dit, quand elle eut achevé de lui donner à boire, parce qu'il lui avait demandé à boire, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Voyez-vous, elle est allée dans le puits, elle a puisé de l'eau, elle a abreuvé le serviteur. Elle a abreuvé aussi tous les chameaux. Elle a pris sa cruche sur le pôle, elle a vidé de l'eau dans les abreuvoirs jusqu'à ce que les chameaux aient bu. Puis vous savez, les chameaux, ça boit beaucoup. C'est qu'elle a dû en puiser beaucoup de l'eau pour abreuver les chameaux. Puis ça, de quoi ça nous parle? Bien, ça nous dit dans Romains 10, 17, il dit, Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui nous disent, ah, j'ai une grande foi, mais une foi dans quoi? Bon, je ne sais pas, là, c'est juste comme, c'est comme si la foi est l'objet, mais la foi est dans l'objet. L'objet de la foi, ben, comment qu'on peut croire, comment quelqu'un peut dire qu'il croit au Seigneur Jésus s'il ne le connaît pas? Donc, l'Esprit, ici, le serviteur, présente le Fils de son Seigneur pour le faire connaître, puis elle puise dans le puits pour abreuver la foi. Puis la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis c'est là qu'on a connu le Seigneur, dans sa parole. Hein? On l'a entendu ou on a lu la parole de Dieu. Puis c'est là qu'on a appris à connaître notre situation. C'est là qu'on a appris à connaître notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on a été régénéré, comme dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénéré par une semence corruptible, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est par la parole de Dieu qu'on vient à connaître le Seigneur Jésus, le plan de rédemption de Dieu. Puis, on a besoin d'aller dans la parole de Dieu pour connaître ces choses-là. Puis, c'est là qu'on est régénéré. Mais un jour, comme on a dit, un jour, on n'aura plus besoin de la foi. Parce que quand on va voir le Seigneur Jésus, c'est ça qu'il nous dit, hein, quand il dit, la foi va donner place à la vue. Quand elle a vu l'époux qui venait, puis lui aussi, il l'a vu venir, puis elle l'a vu aussi, puis là, elle est descendue de son chameau, puis elle était unie à lui, puis elle est devenue sa femme, puis là, il a été consolé de la perte de sa mère. Mais le serviteur aussi, on voit qu'il a tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Alors oui, s'il va faire connaître, pour qu'il soit cru, ben, il faut qu'il y ait des évidences. Puis il y a des gens qui nous disent, la foi n'a pas d'évidence. Ben oui, la foi, Dieu nous donne plein d'évidences pour croire. Un peu comme John Lennox, il y avait un débat avec Richard Dawkins. Puis Richard Dawkins, il disait que la foi, c'est un saut aveugle sans avoir d'évidence. Puis John Lennox, il disait, non, Dieu nous donne plein d'évidences pour croire. Puis il dit, ben non, s'il donnait des évidences, ce ne serait pas la foi. Ben, le Seigneur, il nous donne des évidences. Puis John Lennox, il a posé une question bien simple à Richard Dawkins. Il dit, as-tu confiance dans ta femme? Ah ben oui, j'ai confiance dans ma femme. Il dit, est-ce qu'elle te donne des évidences pour avoir confiance en elle? Mais il dit, il me donne plein d'évidences. Puis là, il dit, ouais, là, il a réalisé. Il a dit, ouais, mais ce n'est pas la même chose. Il dit, oui, c'est la même chose. Les évidences que Dieu nous donne, c'est que l'évidence qu'il nous donne, c'est que c'est toujours vrai. Toutes les évidences qu'on a par rapport à lui sont toujours prouvées comme vraies. Comme pour Richard Dawkins, tout ce qu'il connaissait de sa femme lui montrait qu'elle était fidèle. Donc, il avait confiance en elle pour le reste qu'il ne connaît pas. C'est la même chose. Dieu nous donne plein d'évidences par rapport à lui-même, la création. La conscience qu'on a, les Écritures, il nous donne plein d'évidences. Donc, on a confiance en lui, on l'a trouvé vrai, puis dans tout ce qu'on peut vérifier, donc on a confiance en lui pour tout ce qu'on ne peut pas vérifier. C'est ça on a confiance parce qu'il a toujours été vrai. On a confiance en ce que non, on ne peut pas vérifier. On a confiance en lui. Donc, Dieu nous donne des évidences. Puis, les évidences qu'il a données ici à son serviteur, bien, il a donné des présents. Puis ça nous parle encore de l'esprit, là, dans les versets 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Donc, c'est comme il a pris parmi les chameaux, il en a emmené 10 pour une évidence, il dit, de son Seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, la ville de Nakhor. Voyez-vous aussi au verset 22, il dit, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 sicles d'or. Donc, les biens de son maître qu'il avait avec lui. Donc, en donnant ces choses-là à la jeune fille, eh bien, il démontrait la richesse de son Seigneur. Dans le verset 29 à 30, Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. On sait que là-bas, il aimait les richesses. Puis, quand il a vu ça, ici, l'anneau puis le bracelet aux mains de sa sœur, il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme, Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit, Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Donc, même Laban, quand il a vu les richesses, il a été impressionné puis il a invité le serviteur. Vous savez, le fait que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est dans le monde, c'est une grande bénédiction pour le monde parce qu'ils ont un témoignage, ils ont voulu enlever le Seigneur Jésus de son témoignage, ils ont voulu le faire mourir pour se débarrasser de lui. Mais son épouse ici sur la terre continue d'amener la bénédiction sur la terre en proclamant l'Évangile. Le Seigneur Jésus a dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le monde est béni d'avoir ce témoignage-là. On sait qu'un jour, ils rejettent le témoignage. Puis un jour, le témoignage va être enlevé parce que l'Église va être emmenée au ciel. Mais on voit que Laban, il avait vu ces riches présents-là. Regardez le verset 53. Il dit aussi, Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc là, on est en bénédiction. Vous savez, on est en bénédiction sur la terre. Des fois, quand on travaillait sur des contrats, mon frère, il disait ça, il disait, nos employeurs sont bénis à cause de nous autres, parce que le Seigneur, pour nous pourvoir du travail, ben, il leur pourvoit des contrats à eux autres pour qu'on puisse travailler. Donc, dans un sens, ils sont bénis à cause de, le Seigneur, il prend soin de nous autres, puis ben, c'est sûr, il prend soin des justes et des injustes, mais quand même, on voit que le fait que l'Église est dans le monde, elle est en bénédiction. Mais c'est ça il y a tous les dons de son Seigneur pour gagner l'épouse. On va aller dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, on va regarder ici les dons de l'Esprit pour justement qu'ils viennent du Père, qui ont été donnés pour rassembler l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans les versets 7 à 16. Éphésiens 4, les versets 7, il dit, Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme. Voyez-vous, les dons qui étaient donnés ici par le serviteur, c'était pour faire connaître la richesse du Fils de son Seigneur. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et vous, comment c'est les dons qui sont donnés ici? Pourquoi? Pour rassembler, pour nous faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. On est édifié dans la connaissance du Seigneur Jésus. Puis c'est pour ça que les dons ont été donnés ici, là. C'est vraiment merveilleux là, quand on pense à tout ce qui nous a été donné. Vous savez, il y a une chose qu'on voit dans le rôle de la femme qui est une distinction. Vous savez, la femme, c'est la seule qui peut entrer dans une relation familiale par choix. Nous autres, on n'a pas le choix quand on est né dans une famille, puis moi, j'étais à Saint-Laurent, puis c'est pas moi qui ai choisi ça. J'ai rentré dans cette famille-là, puis il y en a qui veulent changer leur nom, là, mais on a eu ce nom-là, puis c'est pas nous autres qui avons choisi. Mais la femme, elle est la seule qui peut rentrer dans une relation familiale à plein titre, avec toutes les bénéfices de la famille, parce qu'elle n'était pas ici, Rebecca n'était pas dans la famille d'Abraham. Puis, Quand Dieu a choisi Abraham, quand Dieu a fait des promesses à Abraham, Rebecca n'était pas inclue là-dedans. Mais en devenant l'épouse d'Isaac, le fils d'Abraham, qui lui était héritier de toutes choses, elle, par le fait même, est devenue héritière de toutes ces choses-là. Elle était dans la bénédiction. Puis ça, encore une fois, ça nous parle du choix. Nous autres, vous savez, on n'était pas des enfants de Dieu. On avait pour père le diable. Mais quand on a reçu Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui est la parole, qui est le Seigneur Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on est entré en répondant à l'appel qui nous a été fait. On a reçu le témoignage du Seigneur Jésus, on a cru en lui, puis on est entré dans cette relation-là. Maintenant, on est des enfants de Dieu, puis on est entré, comme on a dit tantôt, dans cette unité-là que le Père a avec son Fils. On est entré dans cette même unité-là. De même que Ève, quand elle était unie à Adam, elle était dans la même relation qu'Adam avait avec Dieu. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais c'est pour ça qu'il y a des choses, vous savez, qu'on a rejetées, comme dans notre société au Québec, on a rejeté, tu sais, la femme maintenant ne prend plus, à cause du féminisme, la femme ne prend plus le nom de son mari. Parce qu'on a dit non, non, ça, c'est pas correct. Mais vraiment, c'était Dieu qui avait institué ça. La femme en prenant le nom de son mari, puis même auparavant, moi, vous savez, je lis des lettres là, que ma mère avait, là, ça fait les années 60. Puis ceux qui écrivaient, ils écrivaient à Madame Edgar Saint-Laurent. On dit, ben voyons, ça ne fait pas de sens. Ben oui, elle s'appelait Madame Edgar Saint-Laurent, puis on faisait la farce quand on était jeune. On disait, ben, moi, je peux te dire le nom de ta femme, là. Ben, c'est ça. On prenait le nom de l'homme, puis on disait, Madame Edgar Saint-Laurent, ça va être ta femme. On parlait de Madame, on parlait de leur nom, mais en utilisant le nom de leur mari. Parce qu'en étant unie à lui, elle était devenue un avec lui. Puis tout ce que lui avait était sien. Elle était unie à lui dans tout ce qu'il avait, dans tout ce qu'il était. Elle était un avec lui. Puis, mais, vous savez, c'est la bénédiction de la femme en changeant de famille, c'est que maintenant, elle devient héritière. Elle devient à part entière, fait partie de tout ce qui est la bénédiction. Tout ce qui était promis à Abraham, donné à son fils Isaac, elle était avec lui un dans toute cette bénédiction-là. Parce que dans la maison de son père, il n'y avait pas de bénédiction. Puis ça parle de nous autres aussi. C'est pour ça que dans Romains, au chapitre 7, il dit, la femme est liée à son mari tant qu'il vit, mais s'il meurt, elle est libre. Vous savez, c'est la même chose pour l'homme. Quand sa femme meurt, il est libre de se marier avec un homme. Mais pourquoi que l'Écriture, je m'étais demandé ça auparavant, pourquoi que l'Écriture utilise la femme? C'est parce que c'est dans le rôle distinct de la femme. C'est que si son mari meurt, elle est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais s'il meurt, elle est libre de devenir la femme d'un autre, avec tout qu'est-ce que ça représente. Ça, c'est nous autres, en fait. Nous autres, on était liés par la loi au premier Adam. Mais quand on est mort avec Christ et qu'on était revenu à la vie, maintenant, on a été libre d'être unis au Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce que ça comporte. Vous savez, les bénédictions qu'on a dans Éphésiens 1, là, on ne les avait pas avant, quand on n'était pas en Christ. Mais maintenant qu'on est en Christ, on est entré dans toute cette. Puis c'est un beau chapitre aussi, Éphésiens 1, qui nous parle des bénédictions en Christ, là. Il nous fait une liste, une énumération de toutes les bénédictions spirituelles. On a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est vraiment merveilleux. Mais vous savez, la femme, elle, si elle regarde à ses pères, ben, à ses pères, il n'y a pas de bénédiction. Parce qu'il n'y avait pas la bénédiction dans la famille de son père. Qu'est-ce qui venait de son père, ce n'était pas la bénédiction. Puis, donc, au verset 60, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voyez-vous, la bénédiction, c'était quoi? C'est ça que Dieu avait dit à Adam et Ève aussi, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, c'est là la bénédiction. Puis, on sait que la bénédiction spirituelle, ça va être quoi? Ça va avoir été de remplir le ciel, de tous ceux qui ont été sauvés par le moyen de la rédemption, ceux qui se seront unis au Seigneur Jésus-Christ, l'épouse de Christ. Donc, elle va être bénie dans ses fils. Parce que de son père, de la famille de son père, vient pas la bénédiction. Mais maintenant, en se soustrayant à la famille de son père et en s'unissant au fils de son Seigneur, elle devient, on est, comme nous autres, on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Puis, on va aller dans Psaume 45. Je n'aurai pas le temps de finir. Il y a tellement de choses à dire. C'est tellement beau, ce chapitre-là. On n'aura pas le temps d'aller à l'union de Joseph avec Asna. Mais si on va dans le chapitre 40, ou dans le psaume 45, et on regarde au verset 10 à 12, voyez-vous, il dit: Des filles de roi sont parmi tes bien-aimées. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Puis regardez le verset 11. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Hein, tu es aussi bien de l'oublier parce que tu vas voir quelque chose de bien plus grand. Puis il dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages et avec des présents la fille de Tyr. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Et où la grande bénédiction? Puis regardez au verset 17 à 18. Il dit: Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Et vous, son nom est rappelé. C'est dans ses fils maintenant qu'est la bénédiction. Pourquoi? Parce que ses fils vont être la descendance d'Abraham. Puis, mais dans son père, il n'était pas la descendance d'Abraham. Mais maintenant, elle a la bénédiction dans ses fils. Qui, eux, ils vont prendre la place de ses pères, parce que c'est là maintenant qu'elle va voir. Ça donne avec toute l'écriture, quand il dit, néanmoins, elle sera, dans 1 Timothée 2, néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Voyez-vous, c'est elle qui, dans la naissance virginale, a apporté un enfant qui n'était pas de la postérité de l'homme, mais qui était la postérité de la femme, conçue par le Saint-Esprit dans son sein et qui était sans péché, impeccable, et qui était le seul qui pouvait devenir notre sauveur en mourant sur la croix. Puis là, il dit: Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Voyez-vous, dans la généalogie du Seigneur Jésus, il y a quatre noms de femmes qui sont rappelés pour toujours, parce que c'était à des temps où la généalogie, où la lignée du Messie était en jeu, puis des femmes ont pris à cœur de prendre soin de cette postérité-là, et leur nom est mentionné. On ne voit pas des noms de femmes d'habitude dans des généalogies, mais le Saint-Esprit, voyez-vous ici, nous donne les noms de ces quatre femmes-là qui ont été très importantes parce que c'est eux qui ont permis à la lignée du Messie de continuer. Puis ça préfigure Marie qui est devenue la mère du Seigneur Jésus, qui n'est pas conçue par un homme, mais qui était conçue par le Saint-Esprit. Tellement de choses à dire là-dessus, là. Et comme dans la Genèse, Dieu avait dit à Adam et Ève, il avait dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le Seigneur Jésus va dominer, il va soumettre toutes choses. Puis lui, il va être soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Puis nous autres aussi, on va régner avec lui. On va être avec lui. Mais son espérance, c'est quoi? Ben, là, on a parlé de la révélation du Fils qui lui a été donné par l'Esprit. Puis son cœur a été épris, puis elle a dit, j'irai. Elle a décidé de suivre, d'aller rencontrer cet époux-là qui est devenu le sien. Puis c'est quoi son espérance? Ben, c'est un jour d'être uni à lui. C'est ce qu'on voit dans la Genèse au chapitre 24, à la fin du chapitre. On va retourner dans le chapitre 24. Et au verset 63-67, il dit Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Et vous, ce qu'il voit, il voit premièrement la foi qui arrive, la foi qui a transporté l'épouse. Puis il dit Il regardait, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Donc, leurs regards se sont rencontrés. Puis, regardez ici, il dit, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Voyez-vous, comme il appelait Abraham son Seigneur, il appelle aussi Isaac son Seigneur. Puis là, il fait la présentation de l'époux à l'épouse. C'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile, celui dont, qui elle avait entendu parler, celui que le serviteur avait décrit. Maintenant, il est là devant elle et elle le voit. Elle prend son voile et elle se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voyez-vous, cette union-là, c'est un jour, ça va être là. On va rencontrer notre époux. Lui, il nous attend. Il voit la foi. Il nous voit venir. Puis un jour, on va le voir. Le Saint-Esprit va nous dire, regarde, c'est lui. C'est lui l'époux. Puis on va être unis avec lui pour l'éternité. Puis il dit que le serviteur racontait à Isaac toutes les choses qui s'étaient passées. Ben, c'est la même chose. Toutes les choses qui se sont passées pour rassembler cette épouse-là au Seigneur Jésus-Christ. Ça va être des belles histoires qui vont durer pour l'éternité. Je m'excuse, je ne pourrai pas aller plus loin. Le temps est même dépassé, là. Je vais vous donner un peu de temps pour pouvoir avoir des commentaires ou des questions, puis je m'arrête là. On continuera la semaine prochaine avant de voir l'autre mystère, le mystère qu'on va continuer après les sept étoiles puis les sept chandeliers d'or. Fait que si vous avez des commentaires ou des questions, on a quelques minutes pour.
Oui, moi, Gérald, j'aurais deux questions.
OK.
Quand que dans Genèse 24,
Oui.
on lit, Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, verset 8, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Pourquoi que Abraham, il avait à cœur de ne pas que son fils aille dans le pays?
Ben, c'est parce que c'est ça, le Seigneur Jésus, c'est pas notre espérance n'est pas dans le monde. Ça, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est un sauveur, un homme politique qui va nous sauver de la situation. Mais le Seigneur, il est venu nous appeler hors du monde. Ecclésia, l'Église, ça veut dire hors du monde. Il est venu nous sortir d'un monde qui est sous la condamnation de Dieu. Donc, le Seigneur, il n'est pas venu ici pour réformer le monde, mais il est venu pour appeler des pécheurs hors du monde, pour aller vers lui dans le ciel, pour être son épouse. Fait que lui, il n'est pas venu ici réformer le monde, mais c'est pour ça que nous autres, ce n'est pas notre travail d'essayer de réformer le monde. Quand l'Église essaie de réformer le monde, là, elle a perdu sa vocation. Parce que sa vocation est céleste. Nous, on n'est pas du monde. On est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est pour ça que le Fils n'était pas pour aller en Mésopotamie. Le pays de la promesse, c'était en Canaan.
D'accord, merci. Et puis, mon autre question, pourquoi que Rebecca s'est couvrie quand elle a vu Isaac?
Ben, d'un côté, elle s'est couverte, elle a pris sa place d'humilité. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit. Tu vois, il y a des femmes qui ne veulent pas couvrir, c'est de la rébellion. Mais là, elle s'est soumise de cœur parce que là, elle a vu qu'il était tellement merveilleux. Puis, vous savez, c'est pour ça que de prêcher ces choses-là des inconvertis, comme le voile, la femme qui se voile dans l'assemblée, de prêcher ça à des inconvertis, ils veulent rien savoir, ils suivent le féministe. Mais ceux qui sont convertis au Seigneur, ben, c'est quoi qu'on veut faire quand on est converti au Seigneur? On abandonne nos droits. On se donne complètement à lui. Puis elle s'est couvrie dans son humilité. Puis là, il l'a emmenée, puis il l'a pris, puis elle est devenue son épouse.
Merci beaucoup.
C'est des choses qu'on fait de cœur.
J'aurais une question, moi aussi, Gérald.
OK?
C'est Gilbert qui parle.
Oui.
Il y a bon un frère qui perd sa femme, là.
Oui.
Est-ce qu'il va la retrouver comme dans l'éternité, il va-t-il la retrouver comme sa femme ou sa sœur en Jésus-Christ?
Ben, c'est ça, comme le Seigneur a dit, quand dans le siècle à venir, les hommes ne prendront pas de femmes, puis les femmes ne prendront pas de mari, mais on va être comme les anges de Dieu. Donc, cette relation-là est sur la terre. Puis, on voit quand le Seigneur dit, quand il institue le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc la mort nous sépare, mais on va se retrouver, mais plus dans cette relation-là de mariage. Le mariage s'arrête à la mort de l'un des deux, parce que la mort, c'est
Oui.
la seule, ouais, la mort rompt l'alliance. Puis toujours avec, ça a toujours une signification, comme dans Romains 7, qui dit que la femme qui est mariée à un mari est liée à ce mari-là, mais si le mari meurt, elle n'est plus liée. Elle est libre maintenant d'être mariée à un autre. Voyez-vous, cet accord-là, ça a une signification que cette relation-là prend fin à la mort. Quand le Seigneur a institué le mariage, il avait en vue ces choses-là. Le Seigneur, lui, n'est jamais pris au dépourvu. Quand il fait quelque chose, tous les détails sont importants. Puis on les voit, vous savez, quand ça a été institué, il n'a pas oublié ça.
Moi, j'ai posé la question parce que c'est populaire dans le monde. Un mari qui perd sa femme, il pense la retrouver au ciel. Comprends-tu?
Ouais, c'est sûr, il va la
Me,
retrouver,
oui.
mais plus dans la même relation qui était ici. C'est pour ça qu'on voit
Oui, c'est ça, oui.
comme les Mormons, ils font des mariages éternels, mais ça, c'est pas dans la parole de Dieu.
Merci.
Une petite remarque peut-être encore. Le verset 9, ça dit que le serviteur a mis sa main sous la cuisse d'Abraham, son
Oui.
Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Des fois dans le monde, on va jurer, puis ben, on dit l'expression, je peux jurer sur la tête de ma mère, hein?
Ouais.
Mais là, le fait de mettre sa main sur la cuisse d'Abraham, il semblerait que c'est la partie de l'homme la plus solide, la plus forte.
OK.
C'est ce que j'avais lu à un moment donné.
OK.
Je me posais la question.
Ouais. Ouais, la force de l'homme, c'est dans ses jambes, dans ses cuisses. Ouais. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a tellement de détails. Tous ces petits détails-là ont toutes des significations. C'est ça qui fait que la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Il n'y a rien pour rien. Puis des fois, ça nous prend des années avant de découvrir pourquoi ce détail-là est donné. Donc maintenant, on va peut-être, le temps est arrivé. On va peut-être terminer par un mot de prière. S'il y en a qui veulent continuer de jaser, on pourra continuer. Sinon, ceux qui peuvent et doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie parce que tu as fait tellement des choses grandes et merveilleuses. Tu es tellement grand, tu es tellement magnifique, notre Dieu. On est ébloui devant ta parole, devant ta beauté, notre Dieu, que tu nous as révélé toutes ces choses-là. Tu nous les as révélées afin qu'on puisse les connaître. Si c'était des mystères auparavant, maintenant ils nous sont révélés, notre Dieu. Puis on en connaît même une infime partie, mais ce qu'on peut connaître, Seigneur, de ces choses-là nous remplit de joie. C'est parce que ça nous parle de ton amour pour nous. Et merci, notre Dieu, d'avoir fait des choses si merveilleuses. Donne-nous, Seigneur, de respecter les conditions, les règles que tu as données avec les choses que tu as faites. Seigneur, on ne veut pas contester comme le monde. On veut apprécier puis jouir de ces grandes vérités. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu as fait les choses ainsi. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.